de Courtoisie, très heureux de vous retrouver ce dimanche soir pour ce libre journal des amitiés françaises. Comme à l'habitude, il y a deux parties. Tout d'abord, nous avons le plaisir de recevoir Anka Wisdeil pour la biographie qu'elle consacre à Jean Anouilh. Et Jean Anouilh, bien sûr, sera le thème de cette émission. Et puis à 19h30, nous recevons Éric Anceau pour cette publication, La Nouvelle Histoire de France, aux éditions Passé Composé. C'est un ouvrage collectif, comme nous l'avions présenté lors d'une émission précédente avec lui. C'est un ouvrage important, il y a plus de 1000 pages. Et il a écrit, Éric Anceau a écrit un certain nombre de chapitres de ce livre, et nous le recevons pour le chapitre consacré à la Deuxième République. C'est un thème qui est méconnu, et bien entendu il nous fera découvrir ce soir cet épisode particulier de notre histoire. Je rappelle que nous avons la chance, le plaisir d'avoir Laurent au standard, qui sera très heureux de prendre vos messages. N'hésitez surtout pas à le solliciter. Je redonne le numéro de téléphone de la radio, 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Nous débutons donc maintenant la première partie de cette émission. Je sais ce que vous allez me dire, il faut rentrer en vous-même. Je suis rentré en moi-même plusieurs fois, seulement voilà, il n'y avait personne. Alors, au bout d'un moment, j'ai eu peur et je suis ressorti faire du bruit dehors pour me rassurer. Ça, c'est bien sûr de Jean Anouilh dans cette pièce La valse du des Toréador. Et plus sérieux, plus grave, je cite aussi un extrait de Jean Anouilh dans Antigone. « Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, dit Antigone, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Moi je veux tout, tout de suite, et que ce soit entier, ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage. Je veux être sûr de tout aujourd'hui et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir. » Donc Antigone, dans Antigone d'Anouilh. Eh bien, ce sont là deux extraits, en effet, du théâtre de Jean Anouilh, deux extraits si différents. Ce sont deux pôles, deux passions qui illustrent la richesse, justement, de ce théâtre hors norme que créait Jean Anouilh. Jean Anouilh est malheureusement au purgatoire, et pourtant, ses pièces font toujours sale comble. Comment l'expliquer? Pour cela, il faut connaître sa vie et bien sûr son œuvre si riche, si variée. Car l'homme Anouilh nous expliquera, notre invité ce soir, et bien justement, est à l'image de ses pièces. Son œuvre d'ailleurs ne se limite pas au théâtre, car il fut aussi le scénariste de nombreux films, certains films légers, on pense par exemple à Caroline Chéri, et d'autres plus graves, comme par exemple Monsieur Vincent, où Saint-Vincent de Paul est joué magnifiquement par Pierre Fresnay. Pierre Fresnay qui déclare de sa voix grave que les pauvres sont nos maîtres. Anouilh, qui fut si libre et pudique, cacha la femme d'un de ses amis et collègues de travail, Barsac, durant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il fut pourtant accusé de collaborationnisme et de la pire insulte qui soit, celle d'être un auteur réactionnaire fascisant. Qui fut-il au fond? Que dire de son œuvre et des raisons qui la placent comme un auteur majeur du théâtre du XXe siècle? Cette place est-elle méritée? Pourquoi alors est-il oublié? Il fallait une personne qui a personnellement connu Jean Anouilh pour écrire justement une biographie unique, émouvante, et qui éclaire, justement, qui nous éclaire sur ce grand auteur français. Nous avons donc le plaisir de recevoir Anka Wisdeil pour sa biographie, Jean Anouilh, cet illustre inconnu qu'elle publie aux éditions Classiques Garnier. C'est une nouvelle édition, il faut le préciser, revue et augmentée, qui reprend une précédente émission qui date seulement de quelques années. Anka Vizdaï, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct pour évoquer ce grand auteur, cet immense auteur de théâtre qu'est Jean Anouilh. Vous étiez déjà venu à Radio Courtoisie nous présenter un certain nombre de volumes. Je vous présente à nouveau aux auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes écrivain, metteur en scène et auteur de théâtre d'expression française. Vous êtes l'auteur donc de nombreux ouvrages dans des styles d'ailleurs des catégories différentes. Tout d'abord des biographies. Je vais citer celles pour lesquelles nous avions eu le plaisir de vous recevoir. Orson Welles, que vous avez publié donc chez Fallois. Et puis aussi...
qui est réparé à l'archipel. L'année passée.
Exactement, c'est une réédition, hein, ça, mais complétée.
Absolument, complétée parce
exactement,
qu'il y avait des nouvelles.
Comme d'autres à nous ce soir.
Grâce à l'hommage à la Cinémathèque, il y avait des
exactement,
nouvelles de tout.
Exactement, oui. Et puis Suron ou Le Gai des Espoirs, donc à l'archipel, là encore, c'est tout récent. Et cette biographie de Suron vous avez valu une magnifique distinction, qui est celle du prix Goncourt de la biographie. Vous avez été surprise quand vous avez reçu cette...
Ça m'a fait très plaisir. C'était oui. Le concours, c'était en mai 2025.
Oui.
Ça m'a fait un immense plaisir. On le souhaite toujours, on l'espère.
Oui,
on
mais
est
vraiment,
toujours
oui.
Surpris, Dieu merci.
Surtout que la concurrence est toujours rude.
Absolument. Puis ça serait capricieux de ne pas être content pour la plus haute distinction littéraire française.
Bien sûr. Et puis vous avez écrit aussi des romans. Je citerai L'Exil d'Alexandra, chez Actes Sud. Naturellement, je l'ai précisé dans l'introduction des pièces de théâtre. Une pièce de théâtre originale, surtout parce qu'elle a été jouée d'ailleurs à Broadway, ce qui n'est pas banal.
Oui.
Toujours ensemble, à La Femme Pressée.
Oui, aux éditions de La Femme Pressée.
C'est les éditions de La Femme Pressée.
C'était un honneur d'être joué à Broadway, parce que pour tout auteur de théâtre, c'est vraiment être adoubé par le grand théâtre.
Et vous l'avez écrit en français tout d'abord.
Oui, et donc... j'étais à la première et il y avait une traduction merveilleusement oui. Bien faite. J'ai dit au traducteur, qui a toujours cru que c'est un compliment gratuit, je lui ai dit que ce qu'il avait traduit en anglais, vu que l'anglais est plus synthétique, était plus proche de ce que j'avais ressenti. Je lui ai dit ça de tout cœur et c'était vrai. Et ça a eu beaucoup de succès. C'est repris régulièrement dans des petits théâtres en France. Ça me fait très plaisir.
Et puis, vous avez écrit aussi pour les enfants.
Oui.
De la littérature jeunesse, je citerai Podane, ou la véritable histoire de Podane racontée par le maître de musique du palais. Et ça, c'est aux éditions L'Avant-Scène, c'est ça?
Oui, parce que dans ma peau d'âne, elle n'épouse pas le prince. Il épouse son professeur de musique, qui est le maître du palais.
Bon, son
au professeur désespoir de son papa.
La littérature pour enfants, c'est très différent d'écrire des livres pour enfants que d'écrire des romans, des biographies.
Je pense que ça donne plus de liberté. Pour moi, c'est un honneur. Si on écrit pour les enfants, il n'y a aucune différence. Comme disait Roald Dahl, on écrit pour des enfants de 7 à 77 ans. Et puis, au fond, on sent un tout petit peu plus de liberté. On a plus de liberté dans la fantaisie et dans l'imaginaire. Mais franchement, la langue, la construction, c'est la même. Vous savez, les enfants sont brillants. Tant qu'ils ne sont pas dans le cadre, ils ont toutes les libertés.
Anka Vizdaï, je vais vous poser la question traditionnelle. Ce Jean Anouilh, cet illustre inconnu, nous allons voir pour vous que ce n'est pas du tout un inconnu, naturellement, ce qui donne aussi un intérêt particulier à cette biographie. Pourquoi s'intéresser à Jean Anouilh? Pourquoi publiez-vous cette biographie, qui fait suite d'ailleurs à une première biographie que vous avez revue et augmentée? Donc pourquoi une première biographie, et puis en quoi celle-ci, vous la revoyez, vous l'augmentez? Il y a des éléments, et vous avez été mis en possession d'éléments nouveaux de qui vous ont amené justement à rééditer, pour notre plus grand plaisir d'ailleurs, parce que c'est une biographie extrêmement complète qui nous fait à la fois découvrir l'œuvre, et puis aussi bien sûr l'homme. C'est un homme particulièrement attachant, ça vous allez nous en parler tout particulièrement. Alors pourquoi ce livre?
Je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'il était attachant et que c'était un grand écrivain. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Jean Anouilh était un ami. Il est disparu en 1987. J'ai eu beaucoup, beaucoup de peine. J'ai continué à fréquenter sa compagne, j'ai continué à fréquenter ses enfants, de trois mariages successifs, tous intéressants, tous me parlant d'Anouilh. Donc j'avais, dans la présence des gens qui avaient connu, des gens formidables comme Michel Galabru, C'est pour moi le type qui a le plus conservé l'esprit de Hanoï. C'était un ami, quand vous lui parliez de Hanoï ou qu'il vous parlait, on avait l'impression que Hanoï était là. Son vocabulaire changeait et on avait des blagues à la Hanoï. Parce qu'Hanoï était très drôle quand il parlait. Il était très secret, il se cachait derrière une image comme ça d'homme très sérieux, mais parce que c'était un timide blessé et sensible. Donc, du coup, quand on voyait les gens qui l'ont connu de près, ils savent tous qu'il était drôle, qu'il était amusant. Donc, je n'y ai pas pensé tout de suite, parce que pour moi, c'était un ami. C'était quelqu'un qui m'avait énormément aidé. Téléphoner au directeur de théâtre pour lui proposer mes pièces, vraiment. Il a fait ça pour d'autres jeunes gens. Mais c'est remarquable, il y a très peu de gens qui font ça. Il me recevait chez lui, on était devenus amis. Donc, ça ne m'a pas traversé l'esprit de faire une biographie. Ça me semblait très difficile de ne pas en faire une hagiographie, parce que je le dis d'emblée, sur le plan personnel, sur le plan de travail, je ne lui ai pas connu de défaut. Même dans les confidences de ses enfants, et Dieu sait qu'il n'y a pas grand temps pour ses enfants, mais même dans les confidences des enfants, je ne lui ai pas trouvé de défaut. Mais, Dieu merci, un éditeur intelligent, Fallois, apprend un jour que je connaissais Hanoï. Et il me dit, ah mais comment, mais c'est formidable, on fera une grande chose pour la littérature française, vous et moi. Voyez, il m'a bien flatté, mais ça a marché du tonnerre. Alors, on va faire une biographie de Jean Hanoï. Ça a été parfait, nous l'avons faite. Malheureusement, suite au décès de Bernard de Fallois, au départ tout à fait correct de l'auteur vedette qui était Joël Dicker, et qui, après la mort du patron qu'il avait fait découvrir, est parti faire sa propre maison d'édition, le livre avait disparu, il était épuisé. Et si je me suis adressée à Classique Garnier et non pas à mon dernier éditeur à l'Archipel, c'est parce que je trouvais qu'Hanoï méritait des galons universitaires. Et j'étais très fière de les lui donner. Je vais vous dire, c'est une histoire tout à fait intime et passionnelle. Ce jeune homme avait commencé des études de droit. Il était brillant, comme il avait été au lycée. Mais il les a arrêtés parce qu'il voulait s'occuper de ses parents. Oui. Il s'est occupé jusqu'au bout et de sa jeune femme.
Et particulièrement, nous allons voir dans quelles circonstances de son vieux père. Il apparaît à travers ses actes, c'est ce que vous dites, hein, sa vie est en accord avec son œuvre.
Oui, donc lui donner ses galons universitaires dont la pauvreté l'a privé, ça me semblait un devoir, surtout de ceux qui ont connu.
On est d'autant plus choqué par les critiques très injustes qu'il a dû subir, et puis l'image aussi qu'on lui a collée sur le dos, et qu'on lui connaît, qu'on continue à lui coller sur le dos. Il est un peu au purgatoire, d'ailleurs.
Ce sont d'horribles calomnies. Le livre le prouve. Mais oui, on a eu des gens poireaux d'Elpèche, qu'on ne peut pas soupçonner de fantaisie partisane. Il a aussi, comme moi, trouvé les mêmes personnes, les mêmes juifs qu'Hanoï a cachés. Mais on est à Radio Courtoisie. Je dois dire que Hanoï était le plus courtois des hommes. Il avait cette espèce de réserve que j'atteindrai jamais, de réserve de grand gentleman anglais. S'il y avait une calomnie, il ne répondait pas. Je trouve cette attitude héroïque. Il a entendu des telles contre-vérités, jamais il s'est défendu. Maintenant, avec l'âge, je me rends compte que c'était une attitude non seulement hyper courageuse, qui prouve une force de caractère extraordinaire, parce que vous avez envie de réagir quand vous avez les arguments, mais surtout qu'il avait même logiquement raison. Parce que quand mon père avait un proverbe merveilleux, « Si tu te mets dans l'auge, les cochons vont te manger ». Donc si on commence à disputer avec des gens qui sont de toute façon de mauvaise foi et qui ne vont pas vous écouter, ce n'est pas la peine. Et ce qu'Hanoï a fait, et peut-être s'il avait laissé tous ces calomniateurs dont on va parler, et qui pour la plupart étaient des concurrents blessés par son succès, parce qu'Hanoï a eu un immense succès, y compris d'argent.
Vous pensez que tout de l'envie et de la jalousie.
Énormément. Le cas Salacro, on va l'évoquer quand vous voulez, c'est un cas typique.
C'est vrai que vous le racontez, quand un théâtre avait un problème de trésorerie, il mettait à son répertoire une pièce d'Hanoï.
Oui,
systématiquement, ça remplissait les salles et les caisses, et on pouvait repartir de bon pied.
Pitoëf avait les affiches prêtes. Il y a le voyageur sans bagage, comme vous dites, et puis il y avait aussi la sauvage. Il les mettait tout de suite, il savait qu'il y avait le public.
Alors, je suis un peu surpris par le sous-titre, parce que c'est illustre inconnu. C'est un peu... Pourquoi ce sous-titre illustre, oui,
c'est mais... C'est pas de moi, j'ai honte.
Ce n'est pas de moi,
mais je suis heureuse d'avoir... Courtoisie, je remercie chaleureusement Françoise Giroux qui a trouvé ce titre quand elle est allée interviewer Hanoï. Il faut savoir qu'Hanoï était le plus doux des hommes, mais il ne fallait pas le forcer à quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Donc il ne voulait, je crois que c'était pour Paris Match. Donc Françoise Giroux, grande journaliste, femme séduisante, femme de cinéma aussi, comme Hanoï, comme vous l'avez rappelé. Et Elle voulait à tout prix une interview d'Anouilh, parce qu'Anouilh était très secret. On ne savait presque rien de lui. Même de sa vie privée, on ne savait pas grand-chose. Il n'était pas mondain. Donc, du coup, elle est allée un peu pistonnée par des amis. Et Anouilh a dû la recevoir. Et là, il y a vraiment la séquence de l'interview qui est extraordinaire. Avec tout son charme, avec son intelligence, avec son humour, François Giroud a essayé par tous les moyens de tirer de lui quelque chose. Et à chaque question, Anouilh, qui pourtant était disert et il avait un art de conteur, répondait avec deux ou trois mots. Style Veni Vidi Vici, la sandette. Et à un moment donné, François Giroud, qui était une excellente journaliste et une femme très fine, regarde Monel Valentin, la compagne de Jean Anouilh, la créatrice d'Antigone, entre autres. Et puis elle dit, et alors Monel Valentin, comment il est Jean Anouilh dans l'intimité? Et là, Anouilh, avec sa belle voix grave, dit, tu te tais, tu réponds pas. C'était pas du tout la manière dont il traitait Monel.
Ah oui, en effet.
Mais là, c'était la fermeture, parce qu'il savait très bien que ces choses vont être exploitées. Et du coup, la délicieuse François Giroud, qui n'avait pas beaucoup de matière dans l'interview, on ne fait pas faire dire à Anouilh ce qu'il n'a pas envie de dire, a intitulé ça « Cet illustre inconnu ». Parce qu'au fond, elle était allée parce qu'elle était illustre, et il lui restait inconnu.
Et il est resté inconnu. Mais vous-même, comment avez-vous fait? Parce que vous parlez vraiment de sa vie. Et alors bien sûr de ces pièces, et là vous nous faites découvrir Jean Anouilh, ce que n'a pas fait François Giroud. Comment avez-vous fait pour avoir, parce que vous êtes arrivé de manière désintéressée, j'imagine, à la différence de Madame Giroud, qui forcément venait en tant que journaliste. Et comment avez-vous fait?
Non, je suis allée en tant que journaliste, mais vous avez raison de souligner la différence. C'est que François Giroud était dans un média très important français. Moi, j'étais dans un petit média suisse. Donc déjà, Jean Anouilh, qui ne se laissait pas impressionner par les titres, lui, il voyait les gens directement. D'abord, il a beaucoup hésité avant de me recevoir. Je lui ai téléphoné, il a beaucoup hésité avant de me recevoir. Puis après, j'ai dû quand même galérer au téléphone. Je me souviens jusqu'à aujourd'hui, je lui parlais au téléphone, je m'étais levée debout. Il était tellement impressionnant avec sa voix, qui était à la fois une voix de théâtre, une voix qui articulait bien, et en même temps, il y avait 40 années de cigarettes, donc ça donnait une voix de crooner, c'est extraordinaire.
Il fumait beaucoup,
c'était un grand nerveux. Et du coup, j'ai insisté, j'ai essayé de lui donner tous les arguments. Puis à la fin, je trouve un argument. Il me dit, vous savez, on nous dit, en plus, il avait raison, on nous dit que des bêtises, et après, elles sont exploitées. Quand on parle aux journalistes, on dit que des bêtises, on sacrifie à la médiocrité. Tout ça est vrai. Simplement, moi, je connaissais toute son œuvre. J'ai essayé cet argument, ça marchait moyennement, il était vrai. Et après, j'ai encore essayé un argument. Il habitait Lausanne. Puis je dis, monsieur Anouilh, mes parents habitent Lausanne, j'y vais très souvent. Et il me dit, bon, d'accord, alors vous allez me tenir au courant de votre prochaine visite et je vous recevrai, votre visite chez vos parents. Et moi, je réponds, demain matin? Il m'a dit, c'est un peu précipité. Et une semaine après, on s'est vus. Mais ce qui est très beau, c'est que moi, je suis allée parce que je voulais vraiment parler de lui. Et que je voyais que les gens ne le connaissaient pas bien. Ils avaient tous le numéro de téléphone. Tous les journalistes, tous avaient été refusés. Ils m'ont juste donné le numéro de téléphone. Pourquoi lui, il m'a reçu? Ça, c'est intéressant. À mon avis, il s'est vu exactement en version féminine. Et avec quelques années après, il s'est vu, lui, jeune homme impétrant. Quand de voir à quel point il a dû insister auprès de Freinet pour être joué, au pied de Pitof, des gens qui l'adoraient, il a dû ressentir très sincèrement, d'un journaliste inconnu d'un petit journal, une vénération profonde qui allait à la fois un peu d'insister, lui rentrer dans le chou, mais on sentait que c'était une ouverture que je l'admirais. Donc voilà, je crois qu'il savait choisir les gens et on est restés amis après, pour toujours.
Ça, c'était votre première rencontre avec Anouilh, c'était en quelle année?
C'était en 1983.
Oui, donc vous l'avez côtoyé quand même de longues années.
Oui.
À ce moment-là, il vivait à Lausanne parce qu'il aimait bien les maisons, il avait beaucoup de maisons. Il y a sa maison à Montfort-l'Amaury, à côté d'ici.
Absolument.
Une belle maison au XVIIe siècle, d'ailleurs.
J'ai eu le bonheur de la visiter avec un des enfants.
Oui.
Je tenais à tout prix la visiter parce que il était en plein déménagement. Il aménageait à Montfort-l'Amaury avec Nicole Anouilh qui allait lui donner ses deux enfants.
Sa deuxième compagne.
Sa seule femme. Deuxième compagne, vous avez raison, mais c'est la seule qu'il a épousée. Exactement.
Il l'a épousée en effet.
Nicole Anouilh. Et quand j'ai dit les deux enfants.
Mais pas tout de suite, hein.
Pas tout de suite, non, après la naissance du garçon.
Et d'où Nicole Anouilh, en effet, puisqu'elle portait vraiment sur la différence de Monel, la précédente.
Exactement.
Donc ils étaient à Montfort-l'Amaury à ce moment-là.
Donc ils étaient en train d'aménager. Il a ménagé avec Nicole. Il était enceinte de Nicolas, qui sera son seul fils. Mm-hmm. Et à ce moment-là, sur le jardin de Montfort, il a entendu l'appel de la messe. Il a entendu les cloches de l'église de Montfort-l'Amaury. Alors déjà, on a toute une image mentale.
Très belle église d'ailleurs.
Oui, exactement. Et Ravel qui habitait le coin, qui habitait à quelques centaines de mètres. Et l'idée de l'alouette, de la pièce de Jeanne d'Arc, lui est venue là. Et il dit, j'ai pris, là, dans les affaires du déménagement, j'ai pris dans le jardin une table, je suis montée jusqu'à dans la chambre de bonne, je l'ai installée et sans documentation, j'ai commencé à écrire l'alouette. Donc voilà pour Montfort-l'Amaury. En revanche, ce qui est beaucoup plus émouvant et que je ne savais pas, avec Canot, il y a toujours 10 degrés de niveau, c'est incroyable. Des choses passionnantes vers lui. Donc, je visite la maison de Montfort-l'Amaury. Sublime. Une maison de un musée non prétentieux de théâtre. Partout, des décors de Malclès. Beaux, avec les décors originaux, mais mis simplement comme des simples décorations.
Le décor de ses pièces.
Oui, exactement. Parce que Malclès, il était très fidèle avec ses collaborateurs. Donc, une fois qu'il trouvait un bon metteur en scène, Barsac, une fois qu'il trouvait un bon décorateur, celui-ci, il les gardait pour toujours. Il en va pareil pour les interprètes. Hein. Galabru, la sympathie, le Galabru, c'est celle-là. Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'en descendant, pendant qu'on me montrait la maison, qui était très belle, et où il y a eu la sagesse, comme dans son appartement de Paris, les enfants ont gardé tous ces meubles, c'est extraordinaire. Et en descendant à la cave, vous savez ce que j'apprends. Dans la cave, il y avait eu un tribunal révolutionnaire dans la cave de la maison de Anouilh à Montfort-l'Amaury. Vous imaginez?
C'était le tribunal révolutionnaire de Montfort-l'Amaury.
Exactement.
On apprend qu'il y avait même un tribunal révolutionnaire
Est-ce
à Montfort-l'Amaury.
Est-ce que le pauvre Vitos ne sort pas de là? Et puis comme il avait de l'humour, surtout avec ses enfants, avec ses amis, sa fille Colombe m'a dit que chaque fois qu'il marchait sur les pavés, c'était donc la prison. Du tribunal, c'était en sous-sol. Et chaque fois qu'il marchait au rez-de-chaussée sur le truc, il disait « Mon Dieu, sur combien de Maccabées je marche qui ont été injustement condamnés ?» Encore du théâtre, toujours du théâtre.
Vous écrivez de lui que son œuvre est d'abord une vaste autobiographie.
Oui.
Pourquoi?
Je pense d'abord parce que c'est un être d'une sensibilité extraordinaire. Quand vous avez cité ce que dit Antigone, avec cette volonté de vivre complètement et sans aucune complaisance dans ce qu'on pense et dans ce qu'on fait, je pense que ça, c'était lui. Moi, j'ai toujours imaginé, les gens sont intelligents, les gens qui aiment Anouilh sont très intelligents. Ils ne se choquent pas. Je pense qu'Anouilh, extérieurement, il y avait de ce qu'il y avait de plus viril, de plus sérieux, de plus romain. Il habitait en Suisse, mais il payait ses impôts à Paris. Il a fait son service militaire, et il est allé à la guerre. Il avait tout ça. Mais dedans, il y avait une âme de jeune fille. Il y avait de grandes sensibilités, une sorte de virginité devant le monde, et en même temps de autoprotection, parce qu'il savait que le monde était barbare. Et lui, il ne l'était pas. Lui, il était certainement insensible. Donc je crois qu'il y a ça en lui, ce qui fait que, par sensibilité, par générosité, il a toujours mis dans tous ses personnages, et c'est le secret du bon auteur, dans tous ses personnages, même ceux qu'on pourrait dire négatifs, ou ceux qui sont farcesques, qui traitent en caricature, il a toujours mis de lui, parce qu'il faut toujours être l'avocat et le procureur de son personnage, mais surtout l'avocat. Et ce travail-là profite au comédien qui adore les textes d'Anouilh, parce que dans chaque personnage, il y a quelque chose à défendre.
Alors, il y a des détracteurs qui disent « le théâtre de Jean Anouilh, c'est un peu passé de mode, c'est un peu un théâtre secondaire ». Et la question que je voulais demander, que pensez-vous de ces remarques qui visent en effet à diminuer son mérite que pensez-vous de ces remarques et en quoi a-t-il justement marqué durablement les lettres et le théâtre?
Ces remarques, on va être très très gentil, on est Radio Courtoisie. On va dire que ces gens qui disent ces choses-là ont un seul défaut, ils n'ont pas lu Anouilh. Parce que si vous lisez, si vous plongez dedans, y compris dans les pièces, le théâtre est difficile à lire, mais si vous plongez dedans, il a de telles reparties, de tels morceaux de bravoure que vous ne pouvez pas résister. J'ai aussi un autre argument qui est un peu social, mais quand même, si Anouilh est entré dans la Pléiade il y a quelques années, ce n'est pas par hasard. C'est que sa langue est exceptionnelle. Non seulement l'humour, mais la qualité de sa langue. Les formules, mais elles sont exceptionnelles. Il faut le lire. Il faut le lire et on change tout de suite d'avis.
Alors, quelles sources avez-vous utilisées? Outre celles que, directes, bien sûr, par vos contacts avec lui, mais votre biographie est très riche. Donc, j'imagine que vous êtes allé chercher d'autres sources. notamment toute cette période de son enfance, de sa jeunesse au théâtre, cette rencontre avec Jouvet, puis avec les Pitoëf, etc., période très riche du théâtre en France. Comment avez-vous conçu cette biographie? Qu'avez-vous utilisé?
Même de passer deux années, même avec Anoui, qui est passionnant. Dès que vous écrivez quelque chose, si vous plongez dans une pièce, ça vous redonne tout de suite courage, ça vous fait rire et ça vous aide à écrire. Mais pour rester un tout petit peu, ce qui est mon idéal, de ne pas ennuyer le lecteur, lui apporter des informations, mais ne pas l'ennuyer. Mais pour ne pas ennuyer le lecteur, il faut que vous ne vous ennuyez pas. Alors, moi, avec ennui, je ne m'ennuie pas. Mais il me fallait quand même sortir de mon cabinet et quelque part me nourrir, me rafraîchir. J'ai eu la chance d'un accueil exceptionnel de tous les enfants. Tous. Ils sont cinq. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, j'ai cherché, Dieu merci, il était né en 1910, il y avait encore des gens vivants. J'ai voulu voir tout, comme évidemment moi je l'avais connu avec la dernière compagne, mais je voulais savoir sur les deux précédentes. J'ai retrouvé la parenté de Monel Valentin. J'ai retrouvé qu'il était de 5 ans plus âgé que lui. Les gens ont eu la gentillesse de me parler. Ensuite, je suis allée dans les endroits, sa première maison, quand il a eu un peu de sous, sa première maison de vacances était en Bretagne, à Erquy. Un endroit génial. Il avait un goût pour les maisons, comme vous l'avez dit, et on va peut-être y revenir. Il savait très bien investir. Et il aimait le bon bâti, comme il aimait les objets anciens. Mmh. Il aimait le patrimoine et la qualité. Donc, du coup, je suis allée voir les vivants qui pouvaient témoigner. Les enfants, même Nicolas Nouy, je lui ai un peu parlé. Ensuite, il y avait, bien sûr, la dernière compagne et le dernier enfant, Anouk, que je voyais régulièrement quand j'allais voir mes parents en Suisse. Il y avait aussi ça. Et puis ensuite, il y avait toutes les sources, par exemple pour Jouvet. Jouvet étant décédé, j'ai eu deux sources. J'ai eu la correspondance avec Jouvet, qui était très abondante au départ, étant donné l'enthousiasme qu'avait Anoui par rapport à cet homme de théâtre. Donc la correspondance d'un côté qui est conservée dans les bibliothèques. Et de l'autre côté, je suis allée voir les comédiennes qui avaient joué avec Jouvet et qui pouvaient m'en dire des choses, y compris des petits bruits de coulisses qui très souvent sont vrais sur l'inimitié, la jalousie de Jouvet et tout ça. Donc voilà, c'était témoignage vivant en partie et ensuite témoignage écrit, correspondance. Et parce que sur Anoui, il faut bien dire, il se protégeait totalement de la presse. J'ai trouvé trois minutes qu'il a donné d'interview à la télévision suisse. C'est tout ce que j'ai trouvé.
C'est peu, hein?
C'est peu pour le revoir vivant. Et j'ai j'ai gardé sur mon répondeur, j'ai gardé la bande où il me laissait des messages. Donc là, je peux entendre sa voix, mais de le voir, c'est formidable d'avoir ces trois minutes, mais rien d'autre. Jamais apostrophe, jamais. C'est très curieux. Je crois que je suis abonnée au Grand Timide, pudique. Parce que pareil, Cioran n'est jamais paru à la télévision. Dans un autre genre, tout à fait à part.
C'est pas du tout le même genre, quand même.
Pas du tout. Ah, mais c'est Alpha et Oméga. Vous avez raison. Le seul point commun, c'est quoi? Ils étaient pudiques et ils n'étaient pas mondains. Ils ne se montraient pas. À part ça, je pense qu'Anoui, c'était par timidité. Cioran, c'était peut-être un peu par calcul publicitaire. De toute façon, je trouve qu'Anoui n'avait pas de défaut dans ce qu'il faisait. Il se surveillait beaucoup, il avait un courage extraordinaire, mais quand il prenait une décision, même si elle lui coûtait beaucoup, c'est pour ça qu'il a pu écrire Antigone, jamais il ne se déportait de la ligne toute droite de l'éthique, qui était la sienne.
Dans quel personnage le retrouve-t-on le plus de son théâtre, d'après vous?
Ah, c'est très
Ils sont
beau
nombreux,
ce que
il y a toujours
dites.
Des duchesses. Moi, je rebondis à partir de votre biographie. Et vous dites d'ailleurs qu'il y a toujours des duchesses dans les pièces d'Anouilh.
Et vous savez ce qu'il disait?
Mais il y a des personnages très variés. On
il disait
très
la vieille duchesse, c'est moi. C'est allusion.
C'est vrai,
hein,
en effet.
Paris, c'est moi. La vieille duchesse, c'est moi. C'est exactement ce que vous dites.
Oui, dans quel personnage? Parce que, et puis il y a des personnages. Alors, bien sûr, Crémon, Antigone, il y en a bien d'autres. On pense aussi à Lulu Berlu. Pour vous, quel est le personnage de ces pièces qui est si on veut retrouver justement la personnalité de Jean Anouilh, quelle pièce faut-il aller voir et à quel personnage faut-il
s'intéresser? Il a eu la chance d'écrire pendant 60 ans et d'être joué pendant 60 ans. Voici, la réponse va être double. Il a eu la chance de travailler pendant 60 ans. Il riait toujours, il me disait, j'ai fait beaucoup d'enfants, il fallait les nourrir, j'ai fait 60 pièces, une pièce par an.
Une par an, c'était son rythme.
Exactement. C'est tout à fait
une
vrai.
Une pièce par an.
Oui, sans parler de reprises.
Il a tenu jusqu'au bout, c'est incroyable.
Donc, il y a une période, quand vous faites 60 ans, c'est plus de deux générations. Donc, je vous dirais qu'on le retrouve parfaitement dans Antigone, dans le personnage d'Antigone. On le trouve aussi dans le mari de Colombe, dans Colombe. la déception du théâtre et du monde tellement beau, mais tellement pourri du théâtre. Ça, je dirais, c'est à nous jusqu'à 40 ans. Et là, je reviens sur une interrogation très intéressante que vous m'avez faite tout à l'heure, c'est-à-dire l'autoportrait. Et alors, la dernière partie, ce sont des autoportraits. La valse des toréadors est un autoportrait. Les poissons rouges, c'est un autoportrait. Le plus fort, Beckett, c'est un autoportrait spirituel. C'est justement le fait de ne pas avoir frayé avec les mondanités. Et à la fin, les pièces clairement autobiographiques, le nombril, et la plus belle de toutes, c'est Cher Antoine. C'est très difficile. Ce n'est pas qu'il est au purgatoire, Anouilh, c'est beaucoup plus simple que ça. S'il n'est pas joué, si Antigone se joue toujours, mais Antigone, ça fait 5 personnages. Anouilh me disait, bientôt, je vais devenir injouable. Je vais vous dire...
Trop de monde.
Oui,
donc
il disait, quand j'avais pas d'idée, je sortais un nouveau personnage. Bientôt, je veux devenir injouable, me disait-il. Et je vous signale que le même phénomène arrive avec Ionesco, qui écrit très bien aussi, mais arrive même avec Shakespeare. Là, on est en train de doubler les rôles, parce que financièrement, effectivement, un plateau, comme on l'appelle, de 10 personnages, vous imaginez, il coûte dans les 2 ou 3 millions. À combien doit faire le billet? Donc c'est pour ça, il nous reste à nous y lire.
On pourrait les transformer en film. Parce que lui-même a été scénariste, nous l'avons rappelé.
Bien sûr, mais il y a surtout l'immense succès de Beckett, le film anglais à Richard Burton. C'est la pièce de Jean Anouilh. Beaucoup l'ignorent. C'est le Beckett de Jean Anouilh qui a été monté à Hollywood.
Quelle année était-ce?
Oh, ça devait être il y a 40 ans. Là, c'est magnifique, le film, il est magnifique.
Qui a été monté en anglais?
Oui, bien sûr.
Traduite en
tourné
anglais
à Hollywood.
Bien traduite.
Ouais. Ah oui, adapté et traduit, non, ça va très bien.
Il a un style formidablement clair.
Oui, je pense que pour lui aussi, l'anglais est tout à fait adapté, parce qu'au fond, il écrit un peu comme César, hein. Derrière chaque mot, il y a une image. Il n'y a pas un mot de trop. Il arrive en plus à faire de l'humour et des effets. Oui, non, mais il a un style exceptionnel. Exceptionnel, et sans mots empoulés, des mots très simples, mais la manière dont il les travaille, on voit tout de suite derrière un ironiste, c'est extraordinaire. Il est brillant.
Il était donc aussi scénariste de films, d'un certain nombre de films. On a parlé de Caroline Chéri, ça doit être un peu alimentaire, j'imagine, à moi qui se l'amusait peut-être beaucoup.
Il me disait très souvent, j'ai signé tellement de scénarios dont je devrais avoir honte. Heureusement, très souvent, on m'enlevait du générique pour pas me donner pour pas me donner de l'argent sur les gags. Parce qu'à l'époque, on était payé pour le scénario, et on était aussi payé pour le gag. Pendant longtemps, son premier enfant, il a élevé avec des gags à 10 francs. Un gag était payé 10 francs. Donc, très souvent, il faisait des choses comme ça de façon anonyme. Non, il a fait pour l'argent, mais il savait pas mal faire. Quand vous aimez vraiment l'écriture, et au fond, le cinéma, c'est toujours du dialogue, quand vous aimez ça, même si vous faites vite, vous pouvez pas mal faire. C'était en lui. Les personnages étaient en lui.
Où le retrouver? Dans quel film le retrouver? Alors, dans quel film on peut retrouver sa personnalité?
Il a fait aussi un film qui est très intéressant. Il a fait pour Dessous de Violette. Ça, il l'a fait pour Monet le Valentin. Au fond, c'est presque lui qui avait fait le sujet.
Oui.
Moi, ça m'a un peu ému, mais c'est clair qu'il n'avait pas les moyens d'un vrai producteur. Moi, je pense qu'on le trouve tout entier dans le théâtre. Et dans une chose très intéressante qui sont les articles. Il a fait énormément d'articles sur le théâtre. Il écrivait beaucoup dans les journaux. Et puis, il y a un livre qui est paru à la table ronde il y a un moment. Il s'appelle En marge du théâtre. C'est si nos auditeurs ont peu de temps, et qu'ils arrivent à trouver en marge du théâtre, ils vont le découvrir exactement comment il est. Les 2/3 du livre sont des hommages à des gens qui ont travaillé avec lui, à des gens qui ont été corrects, à d'autres auteurs avec lesquels il n'a pas la moindre jalousie ou la moindre concurrence. Vous me permettez de vous lire un passage?
Oui, je vous en prie.
Écoutez, vraiment, je suis tombée dessus, regardez comme c'est beau, parce que si on essaye d'en faire un conservateur, un peu franco-français et tout ça, regardez ce qui nous tombe sur les yeux, c'est un texte qui a été publié dans Le Figaro en 56. C'est en fait le jeune théâtre français à nom Beckett, Adamov, Ionesco. Rien de très breton, ni de périgourdant là-dedans. Et moi, qui suis un ancêtre avec mon millésime 32, je me demande parfois si le vin était au moins bon cette année-là. Et ensuite il dit, quel que soit le talent de Beckett et celui de l'insondable Marcel Aimé, je croyais pouvoir souffler un peu, L'expérience m'a appris que les chefs-d'œuvre étaient rares. Et voilà que Ionesco sort ses chaises. Je ne sais d'où. Et j'ai un maître. Hmm. C'est pas beau, ça? Ah, Ionesco était un débutant.
Oui.
C'est ça. Ah oui, c'est ça.
Il était modeste, ceci étant dit.
Tout à fait. Il aimait le théâtre. Oui. Si quelqu'un, à un moment donné, quand il se fâche avec Barsac, et qu'il s'écrit des lettres très dures, comme entre amis, hein, il lui dit « Je ne vous ai pas vu sortir de la pièce d'un autre heureux. Jamais. Moi, quand la pièce d'un concurrent est bonne, je suis heureux. » C'est incroyable. Mmh. C'est de la sainteté.
Sans jalousie, en effet, sans envie.
C'est exceptionnel. Sans envie. Et il était comme ça, oui, avant d'avoir le grand succès qu'il a eu après. Mmh. Après, c'est facile d'être généreux. Il avait toujours été comme ça. Oui. Il aimait le théâtre et ceux qui le font.
Mmh. Alors, je propose que vous nous indiquiez, avant d'aborder sa vie, par son commencement, naturellement, par sa jeunesse, par sa famille, je vous propose que vous nous présentiez les étapes principales de cette vie. Vous le faites, hein, c'est la chronologie de votre livre. Vous avez partagé, réparti cette vie de Jean Anouilh en étapes principales. Quelles sont-elles? Comme ça, ça pourra nous situer. Et puis, je vous propose que nous démarrions par le tout début de cette vie. Alors, quelles sont les étapes principales de sa vie?
Je pense que c'est la division en chapitres que j'ai utilisée.
Oui, justement.
C'est-à-dire, voilà. Tout à fait, c'est le temps des pères. Le temps, effectivement, il avait une grande sympathie, et il a toujours voulu honorer son père qui était un artisan. Il a voulu travailler le théâtre en artisan et pas en auteur prétentieux. Ensuite, hommage évidemment aux premiers qui l'ont joué, Freinet et Pitoëf. Et ensuite, le temps des frères, quand ils trouvent, vers 25 ans, quand ils trouvent Barsac. Il commence à s'occuper de la mise en scène de ses pièces, de coopérer avec le metteur en scène et pratiquement, il apprend la mise en scène. Et puis, la dernière partie, du temps pour soi, il est arrivé, il a du succès. Mais comme il tient énormément au théâtre, il commence à faire en compagnie de Roland Pietri, toujours bicéphale, parce que toujours dans sa modestie et son intelligence, il avait besoin de l'avis de l'autre. Et là, c'est du temps pour soi. C'est-à-dire, le succès est arrivé, mais il aime le théâtre. Il ne va pas s'arrêter, il n'a pas fait ça pour faire fortune. Mmh. Il a fait ça pour apprendre son métier et essayer de passer, dans ses mises en scène, je trouve qu'il essaye de passer un style de mise en scène très populaire, qui est comme par hasard le même que chez Shakespeare. Très peu de décors, peu d'accessoires, le comédien, son costume et le personnage. Et on le laisse se débrouiller. Et ça, il l'a toujours fait. Il disait « J'adore les spectacles qui sont faits avec trois bouts de ficelle ». Il a toujours aimé ça, il avait les moyens d'offrir des décors somptueux, il ne l'a jamais fait, parce qu'évidemment, ça détourne l'attention du public un tout petit peu. Et ça, il en était conscient, c'est vous trouver modeste, mais très conscient de la qualité de son verbe, et aussi de la qualité des mises en scène qu'il faisait avec Pietri, qui ne sont toujours qu'au service du texte.
Alors justement, vous incitez là sur la qualité du texte et de l'expression de Jean Anouilh. Vous nous avez dit qu'il n'est plus tellement joué parce que ces pièces coûteraient trop cher justement à jouer, à part les quelques-unes où il y a peu d'acteurs, hein, comme Antigone par exemple. Lire ces plaies justement, si on ne peut pas les voir, lire ces pièces, est-ce que ça conserve le même charme, le même attrait que les voir?
Oui, bon, je suis un peu de parti pris parce qu'étant auteur de théâtre, on imagine, et les comédiens aussi, quand on lit, on voit les personnages et on les voit à sa façon. Donc moi, il m'est arrivé de lire Roméo et Jeannette à 30 ans de différence. Et au départ, je l'ai lu comme une pièce romantique et je l'ai adorée. Là, quand j'ai réécrit la biographie, je l'ai lu avec le scepticisme du personnage qui représente la mort.
Ah oui.
Elle m'a aussi satisfaite. C'est-à-dire que j'ai eu deux lectures selon le moment de ma vie. Comme lui-même, il se fait un portrait dans Antigone, il se fait un autre dans la valse de Toréador. Donc, je dirais que oui, de toute façon, il m'est arrivé de commencer une pièce. Là, j'ai voulu lire La foire d'empoigne avant de venir à notre entretien. Écoutez, j'ai pas pu lâcher. C'était tellement drôle. Si au fond, il y a un factionnaire qui se fait punir à chaque fois. Il y a Napoléon qui s'en va, il se fait punir parce qu'il n'a pas salué. Il y a le roi qui arrive, Louis XVIII, il se fait engueuler parce qu'il n'a pas mis les fleurs de lys au lieu de ses emblèmes républicains. Et puis après, il y a de nouveau Napoléon qui revient. Écoutez, c'est à mourir de rire. Et ce qui est très très drôle, et ce que j'avais oublié, c'est qu'au moment où Napoléon part, il y a un soldat français qui veut venir avec lui. Du style « Ah, mais je vous adore, je viendrai avec vous, je partagerai votre exil. » Et là, tout d'un coup, Napoléon se met, comme tous les hommes politiques devraient le reconnaître, à parler en homme de théâtre. Il dit « Ah non, là, je dois attaquer mon monologue final. Je dois faire mes adieux. C'est un seul en scène. Laissez-moi. Ne me faites pas d'ombre. C'est remarquable. » Donc, si vous voulez, il avait beaucoup de choses sacrées. Jean Anouilh. Mais il savait qu'on devait rire et montrer l'aspect ridicule de chaque chose.
Je vous propose de commencer par donc le début, que vous avez institué en effet le temps des pères, une période qui part de 1910 jusqu'à 1937. Commençons par sa famille. Justement, vous avez évoqué son père, il était très proche de son père, et qui était un artisan, qui était d'une ascendance d'ailleurs d'artisan tailleur sur deux générations. Et lui aura à nous cette fierté justement à se considérer au moins à ses débuts comme un artisan lui aussi. Il écrit ses pièces comme un artisan sous l'influence de ce père. Je vous laisse nous parler de son père, beaucoup de son père, un peu de sa mère, naturellement, tel que vous le faites dans cette biographie en cavise d'Aï Jean Anouilh, cet illustre inconnu que vous publiez aux éditions Classique Garnier.
Son père était tailleur coupeur, effectivement, depuis deux ou trois générations, dans le Bordelais, et il a toujours été fier, il a eu ce côté artisanat. Et c'est tout à fait vraisemblable, la mère l'a dit, qu'il ait été le fils d'un seigneur du coin.
D'un aristocrate local.
D'un aristocrate local à particules. Mmh. Il a su ça au moment où, à 4 ans, sa mère l'a amené embrasser un monsieur qui allait partir à la guerre. Donc peut-être qu'on n'allait plus revoir. Il n'a pas oublié, la mère après l'a confirmé. Et à nous, il s'est fait une règle d'honneur de se considérer comme le fils de son père, tailleur coupeur, parce que c'est celui qui l'avait élevé et celui qui avait une colonne vertébrale droite et qui avait des valeurs. Et il s'en est occupé toujours, et je pense que le sérieux dans le travail, l'absence de fantasme de gloire qui était celui du père l'a aidé. La père est faite par la maman, qui fort heureusement était professeur de piano et pianiste dans des orchestres de cure. C'est peut-être ça qui nous a donné cette magnifique pièce qui s'appelle l'orchestre. Donc très petit, Jean Anouilh allait au casino d'Arcachon, écouter sa mère jouer du piano, voir les opérettes, et puis on le couchait avant le dernier acte. Donc j'ai imaginé qu'on ne pouvait pas faire mieux pour faire un auteur de théâtre. Parce que comme il pouvait voir les deux premiers actes de l'opérette, vous imaginez bien, un petit garçon sensible, intelligent, dans son lit. On l'a mis de force, qu'est-ce qu'il fait? Il imagine la troisième acte.
Mais ce qui est touchant aussi, c'est que vous l'écrivez, vous l'évoquez dans votre biographie en cavise d'œil, c'est que à un moment, je ne sais plus qui lui va le tenter, va lui proposer en quelque sorte de récupérer un titre aristocratique, celui de son
père.
C'est
sa femme, Nicolas Anouilh.
Ah, c'est sa femme.
Sa femme.
Donc de nombreuses années.
La deuxième compagne. La femme.
De nombreuses années après.
Oui, tout à
elle
fait.
Elle lui propose ça. Pourquoi tu ne...
Tout à fait, parce qu'il était présent. Ce seigneur, il était présent à l'enterrement de la mère d'Anouilh. Donc c'est comme ça que Nicolas Anouilh, qui était présente, a eu l'idée, qui aimait beaucoup les mondanités, c'est une très belle femme aussi, hein, qui commençait à réussir dans le théâtre grâce à Anouilh. Donc elle trouvait vraiment que ça la faisait d'être le fils d'un comte. Alors au lieu de ça, Anouilh, qui adorait les brocantes, s'est acheté le premier pochoir comtal qu'il a vu et il l'a mis à la maison. Maintenant il est chez son fils Nicolas. Il a dit à Nicolas, voilà, comme ça on a nos quartiers de noblesse. Les premiers qu'il a trouvés. Une fidélité formidable.
Oui, il est resté fidèle à ce père qui était un père effacé.
Oui,
mais doux et bon, c'est ce que vous écrivez de lui. C'est très touchant, cette histoire, en effet.
Et cette douceur et cette bonté, je l'ai vue sur la nuit mûre que j'ai connue. J'ai vu ces deux qualités incarnées. Un honnête homme, le vrai honnête homme au 19e siècle.
Alors c'est une enfance qui est un peu difficile sur le plan matériel. Hein. Ils vont à Paris justement pour des raisons d'argent, hein, des raisons d'un manque de moyens. Ils passent leurs vacances quand même à Arcachon. Et Anouilh révèle déjà des talents, hein, des talents artistiques. C'est un lecteur passionné, surtout de poésie. Il aime la poésie. On va voir qu'il a écrit d'ailleurs des poésies et très très vite. Il va s'attaquer au théâtre. Alors, j'aimerais lire quelques lignes de votre biographie, si vous voulez bien. Vous décrivez justement la personnalité de Jean Anouilh, jeune. Jean Anouilh, que Jean-Louis Barrault, qui l'a connu au lycée Chaptal, hein,
oui.
Il lui évoque le dandy Anouilh.
Oui,
c'est
il
différent
était déjà
de ce que disait Jouvet, qu'il appelait le miteux.
Le miteux.
Oui. Lequel des deux avait raison, dandy ou miteux?
Pense que le dandy, il devait avoir quelque chose du seigneur père qui n'avait pas été transmis par l'éducation. Mais vous voyez très bien qu'entre le mot dandy et le mot miteux, il y a toute la différence entre une opinion et une insulte.
C'est ça, exactement.
D'ailleurs, Yvonne Printemps, qui par ailleurs était quelqu'un d'assez bien, elle appelait les pitoëfs les pouilleux, les piteux, les piteux. Donc, les miteux, les piteux, ça
oui,
c'est
on
vraiment...
Est...
On ne respecte pas les camarades.
Oui, bien sûr. Je lis quelques lignes de votre livre. Anouilh avait déjà, donc, dans sa jeunesse, avait déjà une forte personnalité, un sens inné du théâtre et un goût très sûr en fait de littérature. Il avait surtout le courage de ses opinions, ce qui lui valut en première ou en seconde année du lycée Chaptal, lors d'un devoir sur la tragédie classique, la note 1 et ce commentaire de l'enseignant... Devoir qui marque une absence totale de mesure, de goût et de tact, et beaucoup d'ignorance, plaisanterie naïve, puérile et déplacée, qu'avait-il bien pu écrire pour mériter cela? Alors je lis
oui,
en
je vous en
effet
prie, justement, justement.
Ce qu'il avait écrit, ce qui est vraiment étonnant.
Formidable.
Il devait avoir 15-16 ans, sans doute,
oui,
à cette époque-là, à peu près.
Le courage de ses opinions.
C'est ça, je lis. La tragédie classique est une étude psychologique. Cette étude est étroitement prisonnière d'un cadre stupide qui a peut-être entravé le génie de Racine et surtout de Corneille. Il faut oser quand même. Hein. Mais cette unité d'action a entraîné dans le théâtre classique d'alors, qui subissait déjà une véritable disette d'idées, une platitude et une monotonie désespérante. Les personnages s'en viennent sur scène deux par deux et en de longs dialogues composés de tirades, fous exposent leurs sentiments et quand ils ont fini, ils laissent la place à deux autres. C'est horriblement soporifique. Il vous prend envie de leur crier, mais agissez un peu, remuez, vivez. Et puis encore, toujours dans cette composition, le style jamais épique ou lyrique semble souvent celui d'avocat qui plaide. Il y a bien entendu des exceptions, surtout chez Racine. Les personnages parlent la même langue. Ce n'est pas la diversité amusante d'un Molière, où chacun a son parler bien à lui, suivant son caractère ou son rang. Dans la tragédie classique, c'est toujours l'auteur qui parle, jamais le héros. Quant à l'originalité de la tragédie classique, c'est proprement de ne pas en avoir. C'est incroyable.
C'est formidable, mais vous voyez comme il avait raison. Il était contre le dogme, contre le fait d'avoir la même langue pour tous les personnages. Et parce qu'un auteur de théâtre, il a plusieurs langages, autant de langages que de personnages. Mmh. Il l'a prouvé avec génie. C'est pas si faux, mais ce qui m'épate, c'est que si jeune, il avait vu ces choses-là, et au fond, il avait été perçu...
Ses commentaires sont d'une
maturité... C'est remarquable.
Mais on n'est pas obligé de les partager, mais c'est une maturité incroyable, en effet. Bon, déjà, il montre ses dons, en quelque sorte,
surtout,
dès le
lycée.
Surtout,
c'est une rupture avec le passé. Excusez-moi, imbécile, en font un type comme passé, il ne se rend pas compte à quel point il a été une avant-garde, et il est une avant-garde dans la franchise des propos.
À cette époque, vous le décrivez déjà comme un caractère sensible et sentimental, et voire mélancolique. Il aura cette mélancolie, toute sa vie.
Moi, je pense qu'il avait mal aux hommes. Vous savez, il y a une réplique dans La Sauvage qui dit « Je ne pourrai jamais être heureuse tant qu'il y aura quelque part un chien délaissé, oublié. » Je pense qu'il était exactement comme ça. Il avait mal aux hommes. Il percevait par empathie, était totalement empathique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se protégeait, il ne fréquentait pas trop de gens. Tout de suite, il entrait en contact avec votre moi le plus profond, avec vos sentiments les plus profonds, sans les chercher. Ça venait naturellement. C'est comme s'il voyait dans les gens. Dans sa générosité, il voyait vraiment l'autre. Il le regardait, il le comprenait, il l'écoutait. Et c'était précieux.
Vous allez bien sûr nous raconter comment il rentre au théâtre, notamment à travers un certain nombre de rencontres, dont celle de Jouvet. Il va devenir son secrétaire d'ailleurs. Mais auparavant, il se lance dans les études de droit. Vous nous avez dit en introduction qu'il les abandonne parce que il doit en effet s'occuper de ses parents. Il doit nourrir sa famille. Donc il abandonne et il devient réclamateur au grand magasin d'où vous dites que c'est prophétique, car Anouilh ne cessera jamais de réclamer.
Oui, oui. Effectivement, il a raconté cette partie de sa vie, quand même les enfants qu'on ne sait pas, dans le seul livre de mémoire qu'il a fait, qui s'appelle « La vicomtesse de Ristal ne recevra pas son balai mécanique ». N'a pas reçu son balai mécanique. Et c'était extraordinaire parce qu'il était au magasin du Louvre, il a appris le métier, il était très intelligent, il comprenait les choses très vite. Et au moment où il s'est fait engager par Jouvet comme secrétaire à la Comédie des Champs-Élysées, secrétaire particulier du patron, il a quitté les magasins du Louvre. Et à ce moment-là, le chef lui a dit « C'est dommage, Anouilh, car vous aviez l'étoffe d'un bon réclamateur. »
Il restera en effet son réclamateur toute sa vie.
Devant la bêtise du monde.
Il fait un passage dans la publicité, il réussit bien, c'est l'agence de publicité d'amour. Il rencontre d'ailleurs ce qui sera un ami de sa vie, Jean Oranche. Ils travaillent ensemble.
Et
il a une disposition, vous écrivez qu'il a une disposition naturelle à la publicité, car c'est un art appliqué où il faut de la créativité, effectivement, des qualités qu'on retrouve naturellement dans un bon auteur.
Et de la concentration. Et de la synthèse. Et ça, il l'avait.
En effet, oui, pour faire un slogan publicitaire, créativité et synthèse, la phrase choc, c'est une caractéristique d'ailleurs de ces pièces de théâtre.
Tout à fait, le minimum de moyens, le maximum d'effets.
Et alors, il écrit, ça va faire notre pause musicale si vous le voulez bien, vous m'avez fait découvrir quelque chose, il écrit des poèmes.
Oui.
Et certains d'entre eux seront mis en musique, seront chantés. Et alors, moi je trouve ça magnifique. Francis Poulenc a mis en musique un de ses poèmes intitulé « Les chemins de l'amour ». Et nous allons l'écouter, si vous le voulez bien, chanté par la soprano Sabine Devielle. Et au piano, nous avons Alexandre Tarot. Qu'est-ce que vous pensez de ces poèmes de Jean Anouilh, notamment celui-ci, « Les chemins de l'amour ». C'est des poèmes d'un tout jeune enfant.
Je pense que s'il n'avait pas été si fou de théâtre, il aurait pu parfaitement être un compositeur d'opérette. Et pour moi, c'est un grand compliment. Parce que le livret d'opérette est encore plus difficile à écrire qu'un livret d'opéra.
Alors nous écoutons.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Thank you.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir en cette première partie d'émission Anka Visdey pour cette biographie de Jean Anouilh. Jean Anouilh, cet illustre inconnu qu'elle publie aux éditions Classique Garnier. Nous avons, avec Anka Visdey, parcouru le début, la jeunesse, en effet, de la vie de Jean Anouilh. D'abord, une introduction générale sur, justement, ce qui fait toujours l'intérêt, le génie de Jean Anouilh, génie toujours présent, puisque d'ailleurs, il continue à être joué avec cette difficulté à préciser Anka Visdey, c'est que sur nombre de pièces de Jean Anouilh, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices. Et donc, ça rend ces pièces difficiles et très chères à jouer. En revanche, ce n'est pas le cas d'Antigone, Anka Visdey, dont vous nous annoncez qu'elle est reprise bientôt, très très bientôt.
Au Petit Montparnasse.
Oui.
Cette semaine déjà, à partir de mardi.
À partir de mardi, à partir du 14 avril, avec une mise en scène de Didier Long. Ce qui est étonnant dans cette pièce d'Antigone, mais on reviendra sur Antigone, hein, ce sont les costumes. Et ça traduit, c'est un sens tout à fait particulier. Nous reviendrons sur Antigone, bien sûr, lorsqu'au moment de sa création, donc durant l'occupation allemande. Je vous propose de poursuivre, si vous voulez bien, cette jeunesse, hein, cette première partie de la vie de Jean Anouilh. Et ce sont des rencontres décisives, hein, qui vont lui permettre justement de faire du théâtre sa profession. Quelles sont ces rencontres, Anka Visdey ?
D'abord, prenons la naissance. La première pièce d'Anouilh est jouée en 1932. Il s'agit de l'Hermine. Et elle a été jouée grâce à Freinet. Freinet qui a choisi la pièce et qui était une vedette. Maintenant, effectivement, il faut, ça c'est la réussite. Mais il faut aller un peu en arrière. Nous revenons au moment où il était secrétaire de Jouvet à la Comédie des Champs-Élysées. Vous imaginez bien, il avait déjà écrit beaucoup de pièces. Il aimait déjà le théâtre, il écrivait des poèmes. Mais ça, c'était un peu son jardin privé. Mais il écrivait des pièces et il en proposait chaque fois au patron, à lui Jouvet. Il lui a proposé une pièce qui s'appelait Attila, une pièce qui s'appelait Mandarine. Et Jouvet trouvait chaque fois des raisons, comme beaucoup d'auteurs de théâtre, comme beaucoup de directeurs de théâtre auprès des auteurs aujourd'hui, il trouvait toujours les raisons de ne pas le faire. Et à un moment donné, Anouilh, qui était très, très vert, qui disait vraiment tout ce qu'il pensait, et il a dit un jour à Jouvet qu'il en avait assez de ses comparaisons agricoles. Parce que Jouvet lui disait des trucs un peu de vieux, alors qu'il n'était pas beaucoup plus vieux que lui. Mais Jouvet avait le pouvoir de mettre en scène. Il était directeur de théâtre. Il lui disait « Mon petit, il faut laisser lever le grain. » Genre, il faut laisser reposer la pièce. Pour un jeune homme qui devait manger tous les jours et qui devait continuer son œuvre, c'était vraiment gentil. Donc, Jouvet l'a fait lanterner pendant 2 ou 3 ans. Il s'est vraiment pas très bien comporté. Et chaque fois, il voulait les pièces, il voulait les lire, et il voulait en avoir la priorité. Et le monopole. Mais il ne les jouait jamais. Et au bout d'un moment, quand même, Anouilh, tout jeune qu'il était, mais comme très fin, il s'est rendu compte. Et il a donné sa pièce à Freinet. Il y a des très belles choses. Anouilh était quelqu'un d'exigeant et qui avait une forte personnalité. Il tenait à une chose, à lire au directeur de théâtre, comme il a fait plus tard au comédien, à lire lui-même la pièce. Jouvet lui a proposé de lui lire par créneau de 15 minutes, 15 minutes. Alors, pour toute personne qui a jamais fait du théâtre, c'est pire qu'une insulte. C'est-à-dire 15 minutes et après, dans 3 jours, tu me lis 15 minutes. C'est pas prendre la pièce au sérieux. On n'a aucune idée de son évolution dans le temps. En revanche, Freinet, grand vedette qui était à la Comédie Française, Jouvet n'était qu'à la Comédie des Champs-Élysées, Freinet, après moult lettres d'insistance de Anouilh, plein de charme, plein d'humour, mais où on sent que ça coûtait au pauvre jeune Anouilh de solliciter, mais Freinet le reçoit dans sa loge de la Comédie Française, et il le laisse lire en entier, toute sa pièce, l'Hermine, la pièce avec laquelle il va débuter. Le soir tombe dans la loge, on n'allume pas les lumières, et à la fin, Freinet se lève, pour un Anouilh qui pendant 3 ans avait été mis au rébus et en attente par Jouvet, il se lève et il le prend dans ses bras. Anouilh dit « C'est juste ce qu'un protestant pouvait manifester de plus fort. » Il le prend dans les bras et lui dit « Votre pièce, je la jouerai. » Et il le fait. Et voici Anouilh devenu, après la déception de Jouvet, Anouilh trouve un père de métier.
Pierre Freinet.
Et après, il va trouver Pierre Freinet. Et après, il va trouver, évidemment, un deuxième qui est Sacha Pitoëf.
Voilà, nous avons bien sûr parlé de cette autre amitié qui va aussi compter fortement dans la suite, hein, dans l'évolution de Jean Anouilh. Cette pièce, l'Hermine, c'est un succès.
Oui. Oui, c'est un succès.
C'est une révélation pour le public qui ne connaît pas Anouilh.
C'est un don nouveau, ça part de gens qui n'ont pas d'argent, c'est justement la révolte contre le boulevard. Dans le boulevard, tous les décors sont beaux, tout le monde va bien, on s'occupe, on appelle ça des pièces en trois caleçons et deux armoires, parce qu'on s'occupe juste de l'amant qui sort du truc, on ne s'occupe pas vraiment des personnages. Il y a une mécanique qui est intéressante, bien sûr, qui est technique, mais on ne s'occupe pas des vrais sentiments des gens. Or là, lui qui avait connu la misère, en tout cas les vaches maigres, là, il fait vraiment une descente, il fait toujours les premières 10 pièces, sont toujours des différences de fortune entre les deux protagonistes, ce qui empêche l'amour. Donc, une idée plus révolutionnaire que ça, j'en connais pas. C'est simplement que l'argent tue les sentiments, il les détruit. C'est exactement ce qu'il dit. Et ça, il le dira pendant 3 ou 4 pièces. Et ce sont les pièces avec lesquelles il commence sa fraternité de travail. Donc, ça veut dire l'Hermine avec Freinet et la Sauvage avec Ludovic. Et c'est toujours l'histoire d'une femme pauvre qui refuse les séductions de l'argent.
Jouvet ne jouera jamais cette pièce.
Non, jamais.
Comment t'as expliqué ? Est-ce qu'il a quand même été son secrétaire pendant un certain nombre d'années ?
Il y a des petites théories qu'il convoitait. On sait que Jouvet pratiquement faisait passer, disons, à la caisse pour être poli, toutes les comédiennes qui jouaient chez lui. Et j'ai eu même des confidences de comédiennes qui l'ont vraiment aimé jusqu'à la fin de leur vie, mais qui m'ont dit ça. Il y avait un canapé vert dans son foyer. Et ça. Il paraît qu'une des rares conquêtes de Anouilh était une conquête de Jouvet. Or, comme Jouvet avait quand même un ego très important, bien qu'il eût par ailleurs beaucoup d'enfants et une femme officielle, il n'a pas apprécié que ce miteux lui vole
la... Et vous pensez que c'est la raison pour laquelle...
Ça pourrait être une des raisons. Oui. Mais je pense qu'il y a une jalousie terrible parce que Jouvet n'avait pas de génie. Il avait un immense talent, mais n'avait pas de génie. Et de voir ce jeune van aux pieds qu'il en avait, et elle est tellement tenace la haine, elle est tellement tenace qu'elle en est bête. Au moment où Jouvet va faire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, sa tournée en Amérique du Sud, où d'ailleurs il va se faire plaquer par Madeleine Auzeray, par une de ses comédiennes et maîtresses. Mmh. Et c'est terrible, il avait dit à tout Paris que c'était la première fois qu'il se faisait plaquer par une femme. Donc il revient des États-Unis, un peu de mauvaise humeur, parce que d'Amérique du Sud, il revient sans vedette, sans vedette et sans amoureuse. Et puis, sur le quai de débarquement, après 2 ou 3 choses de politesse, il demande « Et Anouilh, toujours miteux ?» Donc, c'est vous dire que la haine a été tenace.
Et c'est vraiment tenace, oui.
Après, il a demandé à Anouilh, Anouilh est devenu célèbre, de venir à ses premières et tout ça. Anouilh a toujours envoyé un de ses enfants.
Alors, vous nous avez évoqué cette première pièce. Enfin, cette première pièce, il en avait écrit d'autres, il a commencé à écrire une pièce à l'âge de 16 ans, c'est ce que vous racontez en Covisday dans cette biographie Jean Anouilh, cet illustre inconnu aux éditions classiques Garnier. Là, il s'agit de l'Hermine qu'accepte de jouer donc Pierre Freinet, qui va vraiment lancer Anouilh. Les thèmes, bien sûr, de ces pièces vont varier de manière importante du début à la fin de sa vie, et puis elles ont été classées entre pièces roses, brillantes, noires, etc., bien que vous précisez dans votre ouvrage que Anouilh n'accordait pas tant d'importance que ça cette classification qui est sans doute faite par des critiques littéraires.
Le jour où le merveilleux Roland Lollenbach, qui a fondé la table ronde pour publier le premier livre, c'était des revues, mais le premier vrai livre, c'était le théâtre de Anouilh, et il lui a demandé comment, et Anouilh a dit: on publie tout mon théâtre, je ne publie pas des pièces, tout mon théâtre jusqu'en 40. Et puis, il lui a dit, l'éditeur, et alors comment on va les appeler, les volumes ? Et Anouilh, vraiment, présence d'esprit, a dit pièces roses, pièces noires. Donc c'est lui-même, je tiens l'histoire c'est lui de lui-même. C'est lui qui l'a dit pour avancer la signature du contrat.
C'est
et que ça se fait. Et après, évidemment, les critiques l'ont pris au sérieux.
Oui.
Il y a une ressemblance. Les pièces noires sont surtout sur la misère, les pièces roses, c'est de l'humour pur. Mais voilà comment c'est venu. C'était une fulgurance d'Anouilh. Pour vite répondre à une question et signer le contrat.
Alors, la question que je souhaitais justement vous poser, au-delà des thèmes, des drames, est-ce que le style proprement dit d'Anouilh change, évolue, ou au contraire, c'est une constante ? Ce style particulier, soit un style très pur, c'est assez simple. Est-ce que ce style est le même jusqu'à la fin, ou au contraire, il a évolué ainsi que les mises en scène ?
Disons que le style reste un peu, il y a une sorte de colonne vertébrale qui est très à la romaine, qui est très sur des faits, sur du factuel. En revanche, bien qu'il ait eu de l'humour dès le début, le bal de voleur, il n'y a qu'à citer le bal de voleur, c'est vraiment de la fantaisie, c'est Elsa Poppin. Mais petit à petit, son humour évolue vers l'ironie. Donc, il y a une sorte de scepticisme qui s'installe avec l'expérience, avec l'âge,
avec
la connaissance
vit,
du théâtre. Exactement. Ses drames personnels, sa découverte de la célébrité. Vous savez, la célébrité n'est pas seulement un cadeau. Ça vous rend très sceptique par rapport à l'attitude des gens. Donc, du coup, l'ironie remplace un peu cet humour fantasque du bal des voleurs, par exemple, pour donner au fond la première pièce qu'il a fini d'écrire, même s'il n'a pas été la première représentée.
Vous évoquez dans un chapitre, on va revenir bien sûr aux œuvres suivantes et puis surtout à sa rencontre avec Marquante, avec Pitoëf, avec les Pitoëf. Vous évoquez ces paternités spirituelles, c'est-à-dire en quelque sorte ces saints patrons dans le théâtre. Qui sont ces modèles dans l'histoire du théâtre?
Bon, il en avait beaucoup parce qu'il était un très grand lecteur. Il adorait Tchekhov, il adorait Shakespeare, avec toute la modestie que ça implique. Il tendait vers ce genre de choses. Sur le jeu et la mise en scène, il a toujours eu ses quatre points cardinaux. C'était les gens du cartel. C'était Pitoëf, c'était Batty, c'était Dulin. Enfin, c'était toute une constellation à laquelle il appartenait, qui voulait sortir du théâtre classique.
Vous citez quand même Molière hein, comme saint patron incontestable.
Alors là, pardonnez-moi, vous avez parfaitement raison. Il avait un culte pour Molière, même dans la vie privée.
Alors pour
quand
quelle
on
raison
parlait entre nous, il l'adorait.
Pour quelle raison? Et retrouve-t-on un peu de Molière dans les pièces d'Anouilh?
Je suis sûre que lui dire qu'on retrouvait du Molière dans ses pièces, ça aurait été pour lui le plus beau des compliments. Il avait un réel culte. Je pense qu'il en admirait la simplicité, le fait qu'il n'y a pas une scène de trop, qu'il n'y a pas un personnage de trop. Et en même temps, Molière a évolué comme lui. Petit à petit, les pièces deviennent un peu plus désabusées, quand même. Et je pense qu'il avait, au fond, une admiration pour le théâtre simple, pour le théâtre de très tôt, où vraiment les choses... Un théâtre très populaire, où tout le monde peut comprendre ce qui est dit et ce qui s'y joue. Mais effectivement, c'était son grand amour, au point qu'il a écrit La Petite Molière, qui est une biographie en théâtre de la vie de Molière, et qui est drôlement bien faite et courageuse. Elle a été créée par Jean-Louis Barrault, avec Madeleine Renaud, et ça a été une merveilleuse création, La Petite Molière. En principe, c'était un scénario de film. Vous voyez, au fond, beau film où il y avait des scénarios, n'ont pas été réalisés, parce que c'est des choses très fines, un peu culturel, et je ne pense pas que l'industrie, même excellente, du cinéma français de son époque était intéressée. Ça faisait trop culturel, pas intellectuel, il ne se la jouait pas, mais trop culturel. Ce qui fait que Barrault, homme de théâtre averti, a vu ce scénario de La Petite Molière, il a tout de suite proposé de le faire.
C'est en quelle année, ça
Ça, ça devait être il y a 30 ans environ.
Nous avons des messages d'auditeurs, et des messages, ça tombe très bien parce que ça va faire la transition avec, en effet, la rencontre d'Anouilh avec Pitoëf. Notre auditeur dit, est-il exact que le metteur en scène Pitoëf fut le premier à donner sa chance à Jean Anouilh pour sa pièce Le Voyageur sans bagage?
Il y avait eu avant Freinet, mais effectivement, on peut discuter parce que Freinet a été sollicité comme comédien par Anouilh.
Oui.
Alors qu'en tant que metteur en scène, notre auditeur a tout à fait raison, c'est que Pitoëf était à la fois comédien, c'était un homme de théâtre complet. Il était comédien, il était metteur en scène, il était tout sauf auteur parce qu'il avait une vénération respectueuse pour les auteurs. Il n'osait pas. Et il faisait aussi le décor de ses pièces qui très souvent étaient, au fond, les chaises de sa cuisine, la table de sa cuisine. Et à un moment donné, il y avait, justement, pour Le Voyageur sans bagage, à un moment donné, il y a Anouilh qui voit les préparations en répétition et il voit que dans le décor de la famille riche du voyageur sans bagage, de ce type qui a perdu la mémoire, il voit qu'il y a les chaises blanches de la cuisine de Pitoëf. Et il se permet de lui dire « Vous savez, ce sont des grands bourgeois, Sacha. » Et Pitoëf lui répond « Oh bon, quand cela ne tienne, on va les peindre en doré. » Donc vous voyez la simplicité, le goût du théâtre qu'ils avaient tous les deux. Donc effectivement, Pitoëf, il faut lui rendre cet hommage. Et puis, c'était au Théâtre des Mathurins. Le Théâtre des Mathurins, qui jusqu'à aujourd'hui existe, c'est l'endroit où cette pièce magnifique a été créée par Pitoëf.
Quelle est la raison de cette amitié entre Anouilh et les Pitoëf? ça a été vraiment une étincelle en quelque sorte. Anoun n'a connu les P2F que pendant 4 ans, mais ça a permis, c'est ce que vous écrivez, voilà, de créer deux magnifiques spectacles. Et Anoun voit d'ailleurs un respect éternel à P2F. C'est quoi la cause de cette...
C'est très très simple. On l'a cité tout à l'heure, mais ça me fait plaisir de le redire. Si pour Jouvet, Anoun était le miteux, et pour Yvonne Printemps, les P2F étaient les pitoyables.
C'était
la rencontre
des
miteux et des pitoyables. C'est-à-dire les deux personnes qui ne tenaient pas à être des vedettes mondaines, qui voulaient faire du théâtre simple et du théâtre populaire. Ils n'étaient pas admis dans le haut, dans la haute aristocratie du théâtre. Ils se sont trouvés entre eux. Ils ont fait du théâtre qui a beaucoup plu au public.
Brasillac a écrit que Le Voyageur sans bagage, c'était le baptême d'Anouilh. C'est un succès immense, écrivez-vous, que ce Voyageur sans bagage créé donc au Mathurin, c'est le vrai démarrage de la carrière d'Anouilh. Pouvez-vous nous parler de cette pièce et des raisons de son succès immense?
Oui, ça tombait vraiment au bon moment parce qu'il y avait tous les amnésiques de la Première Guerre, des soldats qui ne se souvenaient plus quelle était leur famille. Et très souvent, il y avait des familles entières qui récupéraient. Et il y avait plusieurs familles qui demandaient ou reconnaissaient le même fils. Or, au fond, la raison était qu'il y avait des dommages de guerre accordés à ceux qui avaient eu des soldats qui étaient devenus amnésiques. Et Anouilh a imaginé exactement cette chose. Il a imaginé un de ces amnésiques qui est récupéré par une famille, mais s'il est amnésique, il n'a pas perdu son bon sens. Il se rend compte que vraiment, il n'a rien à voir avec ce monde-là. Si vraiment sa naissance, qu'il n'a pas choisie, lui a donné cette famille-là, il est tout ce qu'il y a de plus odieux. Et puis, il finit par partir, il choisit sa famille parce qu'il est revendiqué par deux familles, il finit par partir avec un petit garçon anglais qui est absolument inconnu, et il part. Quelque part, il choisit sa famille, il choisit son départ. C'est très émouvant.
Et le deuxième succès extraordinaire avec les P2F, quel est-il? Donc là, on parle de Voyageurs sans bagage. C'est
La Sauvage. C'est là qu'il y a « Je ne serai jamais heureuse tant qu'il y a un chien oublié, abandonné quelque part ».
La Sauvage, il l'a écrit juste après, le Voyageur sans bagage?
Oh, il écrivait tout le temps. Et au fond, il avait deux ou trois ou quatre pièces d'avance.
Cours, oui.
Ouais, quand il a rencontré, par exemple, Barsac.
Janvier 38, c'est juste avant, vous avez raison, en janvier 1938, donc c'est juste après. Et c'est la création, donc la première de La Sauvage. D'ailleurs, j'aimerais lire un extrait, si vous le voulez bien.
Avec joie. Et c'est Ludmila Pitoev qui jouait le rôle.
De votre essai. Donc, effectivement. Le lendemain de la première de La Sauvage, donc en janvier 1938, donc. Anouilh écrit donc à P2F, « Mon cher P2F, je ne suis pas monté hier parce que je suis un traître et qu'il y avait du monde, mais je veux vous dire que nous sommes sortis bouleversés. Vous avez été admirable. Je crois que personne, aucun des imbéciles qui peuplaient la salle ne pourra oublier Ludmila P2F quand elle a dit « Je suis pauvre, je suis sotte, je suis jalouse. J'ai entendu le plus grand silence de ma vie. Vous pouvez être content. » Et fier, avec 6 personnages, ce sont vos 2 plus beaux soirs de théâtre. Tout a été clair, limpide, et pourtant quelle fatigue, quelle lutte contre la marée, en s'appuyant du front contre chaque vague. Le post-scriptum d'Anouilh est extraordinaire. Je vais tâcher de dépenser moins d'argent, de ne plus faire jamais de cinéma, et de ne vivre que du théâtre, et d'écrire mieux. Incroyable.
C'est beau, hein?
C'est extraordinaire.
C'est plein de cœur et de reconnaissance et de gratitude.
Alors, en évoquant effectivement La Sauvage, vous écrivez que Anouilh trouve que divertir est ce qu'il y a de plus beau dans le théâtre pour faire oublier à l'homme le fait d'être mortel. Il était sans prétention.
Totalement, totalement, totalement. Et d'ailleurs, il a exprimé ça plusieurs fois. Il s'était auteur. Le drôle de métier pour faire oublier la mort aux hommes. Donc c'était ça. Il voulait amuser pour un peu alléger cette charge métaphysique.
Alors P2F avait tous les dons, hein. Vous le décrivez comme un comédien et un metteur en scène, mais aussi comme une véritable âme théâtrale. Il faisait tout sauf auteur.
Oui, oui, il avait un respect énorme pour la langue.
Ils étaient parfaitement complémentaires en effet, avec, avec Jean. Nous avons un autre message d'un auditeur, pardon, qui vous remercie pour vos propos passionnants. Et il découvre que, grâce à vous, que l'œuvre d'Anouilh est foisonnante. Il a une question un peu périphérique, selon ses termes. Quel était le rapport d'Anouilh avec la question de Dieu?
Ah, mais c'est très intéressant. Et c'est très bien parce que peut-être on aurait oublié d'en parler. Et elle était très très forte. Et d'ailleurs, il y a deux pièces où il parle de cela. Beckett, où il parle. Au fond, il ne se prononce pas beaucoup sur Dieu, mais que Dieu existe ou pas, c'est au fond le phare vers lequel on tend tous. C'est un idéal de perfection qui nous est donné et c'est une chance et un cadeau. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai découvert bien après sa mort, en écrivant le livre, qu'il avait fait des dons très important à beaucoup d'églises, dans à peu près tous les endroits, campagne, ville où il habitait, avec une seule condition, qu'on ne dise jamais qu'il avait été donateur. Donc j'ai découvert qu'il avait énormément. Ensuite, Monsieur Vincent nous prouve le film avec Freinet, à part la gratitude pour le comédien qui l'a interprété la première fois, nous prouve la recherche de Dieu et la recherche de la foi, qui finalement, et là on peut mettre athée et croyant ensemble, finalement c'est une recherche de la vie juste, d'absence d'erreur et de l'amour de l'autre. Donc ça, on le sent dans Monsieur Vincent.
C'est un beau film, hein,
c'est une merveille.
Ah oui, oui.
C'est une merveille.
Les pauvres sont nos maîtres. C'est frappant.
On devrait vraiment le ressortir parce qu'il est fait avec une telle économie de moyens que je pense que tous les gens qui ont un idéal se retrouvent là-dedans. Même s'il n'est pas religieux, c'est un idéal éthique. C'est vraiment, c'est un niveau remarquable.
Je vous propose d'aborder, il nous reste à peu près 7-8 minutes, à passer en votre compagnie. De toute façon, en cas que vous allez revenir pour une suite à cette première émission autour de la biographie passionnante, riche, très riche, que vous publiez sur Jean Anouilh. Jean Anouilh, cet illustre inconnu aux éditions classiques Garnier. La deuxième période principale de la vie de Jean Anouilh, c'est celle qui débute en 1938, il a 28 ans donc, hein, et que vous faites aller jusqu'au printemps 1953, c'est une période très très riche, il s'est passé énormément de choses, que vous avez intitulé « Le temps des frères d'armes ». Alors en effet, il va aussi faire des rencontres exceptionnelles qui ont une influence naturellement sur la suite de sa carrière. Alors je vous laisse évoquer le début de cette période, et notamment c'est la rencontre avec André Barsac.
André Barsac avait une compagnie et Jean Anouilh, ils avaient presque le même âge d'ailleurs, ils étaient tellement d'accord entre eux, ils se ressemblaient tellement, les mêmes lunettes, père très jeune à l'âge de 23-24 ans, qu'on les appelait les jumelles. Il y en avait un qui commençait une phrase et l'autre la finissait. C'est vous dire vraiment la proximité, l'empathie, la proximité d'idéal entre ces deux hommes, ces deux jeunes gens qui étaient formidables. Et Anouilh, qui était très généreux, qui était toujours content du succès d'un camarade, avait vu une pièce mise en scène par Barsac qui s'appelait « Le roi serf » de Carlo Gozzi. C'est une pièce merveilleuse, mais elle avait un côté fantastique, tout ce qui enchante l'âme d'enfant de Anouilh, et en plus avec une technique parfaite. Il a adoré, il l'a dit, il l'a écrit à Barsac et ils sont rencontrés. Il lui a montré le bal des voleurs. Barsac a adoré, il avait du goût, il avait de l'ouverture. Simplement, il avait une longue tournée aux États-Unis. Donc, il est parti dans les valises avec le bal des voleurs et dès le retour, après la tournée qui fut un immense succès, il a monté le bal des voleurs qui est une pièce magnifique. Malheureusement, tous les gens de mon âge l'ont joué au lycée, en amateur. Et ils ont tous un souvenir.
C'est
incroyable, une dizaine. Parce que c'est totalement déconnant, dans le bon sens, parce que les personnages sont un peu des caricatures et que c'est ludique à n'en pas pouvoir. Il y a une duchesse là qui donne, la duchesse c'est Anouilh, il y a une duchesse qui est un peu la grande marionnettiste et qui arrange les choses entre les jeunes filles riches de famille et le groupe des voleurs, et c'est jouissif, les répliques sont courtes, on a de plaisir à jouer. Autant il y a des beaux monologues à Anouilh, vraiment, mais là c'est vraiment du ping-pong. Non, du squash. Du squash de grande qualité.
Alors, les critiques sont très positives, à l'exception pardon, de celle du journal La Croix. Voici ce que vous écrivez, à de rares exceptions près. Donc La Croix, qui regrette la société présentée comme un vaste bal des voleurs, justement. La critique est positive. Candide décrit Anouilh comme un poète du théâtre. C'est une belle expression, en effet.
Bon.
Un poète du théâtre et son univers comme un monde enchanté. Tristan Bernard, qui avait beaucoup aimé la pièce, invite Anouilh dans son hôtel particulier. l'embrasse et le gratifie de cet adoubement. Anouilh, vous avez inventé une nouvelle façon de distraire les honnêtes gens. Toujours la distraction. Les maquettes nous sont conservées, la beauté du décor, sa simplicité, Barsac et Anouilh sont fêtés. C'est le triomphe de l'amitié et du talent, triomphe aussi de la gratitude. Anouilh remercie par écrit la troupe des quatre saisons qui, par sa jeunesse, son talent et l'esprit d'invention, a fait vivre et aimer une pièce qui aurait peut-être été sifflée sans eux. Le public est ravi car cette histoire de barbe et de déguisement le change des angoisses de guerre. Si la joie amicale régnait boulevard des Batignolles, ce n'était pas le cas ailleurs.
Oui, en plus ça venait au bon moment. Dans une tragédie mondiale, ça venait exactement là où il fallait.
Effectivement, la guerre arrive. Anouilh est appelé en avril 1940. Pouvez-vous évoquer cette période ?
Oui, c'est formidable.
Il nous reste 3 minutes, hein, juste.
C'est formidable parce qu'il s'arrange toujours pour trouver des types très forts, des forts des Halles, des gens très importants, des boxeurs. Et comme lui, il est plutôt malingre et fin, il a toujours leur protection parce que la plupart ne savent pas écrire. Donc il écrit les lettres d'amour de tous ses compagnons de cellule. Et comme il a beaucoup d'humour, bien que je suis persuadé, il a été un soldat tout à fait correct et tout, il était en deuxième classe et comme il prend de temps en temps des initiatives de composer un peloton ou pour rendre service et tout ça, chaque fois on l'engueule parce qu'il prend des initiatives, mais il a toujours un tel humour sur son expérience et entre autres il raconte qu'il est parti fleur au fusil comme tout le monde. Quand ils sont revenus, ils ont été faits prisonniers par les Allemands et ils étaient prisonniers dans un bâtiment que les Français avaient construit pour y mettre les prisonniers allemands. Donc vous voyez, la précaution inutile, c'est assez beau. Et heureusement, au moment où il a été, pour des raisons de santé, il a été exempté, mais déjà la drôle de guerre était finie. Il avait fait son devoir et il disait, quand il était en Suisse, il disait « Je ne veux avoir avec mon pays, la France, » que deux sortes de liens. Les impôts et, sous toute réserve, être appelé sous les drapeaux. Donc, c'est un patriote qui ne la sort pas souvent, mais qui l'est dans l'âme.
Donc, il échappe au sort des prisonniers de guerre. Et alors, il faut le préciser, tel que vous le faites dans votre livre, je rappelle, avant que nous nous quittions, en tout cas, Visdey, Jean Anouilh, cet illustre inconnu que vous publiez dans vos éditions classiques Garnier. Là, un événement important, c'est que Dublin offre à Barsac, donc le grand ami et metteur en scène d'Anouilh, pour cette pièce, hein, Le bal des voleurs, il lui propose la direction du théâtre de l'Atelier.
Et 20 années de succès, Barsac-Anouilh s'ouvre à partir de ce moment.
C'est ça. Et donc, je vous propose que nous arrêtions malheureusement là cette première partie d'émission. Et comme ça, nous pourrons redémarrer donc en 1940 sur cette grande aventure de Barsac avec Jean Anouilh, justement au théâtre de l'Atelier où seront présentées parmi les plus grandes et plus belles pièces donc, de Jean Anouilh. Merci beaucoup à vous, hein, Cavisday. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'être venu ce soir en direct. Et puis, nous nous retrouvons donc dans quelques semaines pour la suite donc de la vie, de cette vie magnifique qui est celle de Jean Anouilh. Merci à vous, Cavisday.
Vive Jean Anouilh.